Louer et exalter soit le Seigneur. Pour que nous pouvons chanter cet amour précieux de Dieu. Et cet amour ne cesse, ne périt jamais. Ici, parfois, notre amour que nous pensons avoir peut avoir un commencement et puis une très mauvaise fin. Mais l'amour de Dieu n'a pas de commencement et ne périt jamais. Depuis le commencement, Dieu a aimé toute l'humanité et il aime l'humanité jusqu'à dans notre temps. Et nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous aussi, l'amour de Dieu, nous avons eu la grâce de le reconnaître. Que son nom soit loué et exalté. Nous voulons lire une parole avant la prière de Romains 15. Romains chapitre 15, depuis le premier verset, ici Paul dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification, en allemand, son édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, le psaume 69, verset 10, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous soyons attachés à l'espérance. Que le Dieu de la persévérance, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a. En allemand, accueillez-vous donc les uns les autres avec amour, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient, afin que les païens, en allemand, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Encore dans un autre verset en allemand, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Que le Dieu qui est notre espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix sur le fondement de la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Abondiez. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous voulons, tant qu'il y a le souffle de vie en nous, tant que nous pouvons nous réunir, nous pouvons toujours louer et exalter le Seigneur, car les Écritures ici l'ont dit à l'avance. Et par les prophètes, cela a été déjà dit, que les nations loueront Dieu. Et nous venons des nations, mais nous avons été rachetés, délivrés, affranchis, et nous ne voulons pas cesser d'apporter l'honneur à Dieu et l'adoration. Nous sommes toujours reconnaissants quand nous pouvons nous rassembler, avoir communion, et ensemble élever nos bouches, nos voix et chanter ces cantiques pour l'honneur de son nom. Frères et sœurs, pas que nous voulions nous faire voir ou bien regarder aux autres, mais nous voulons que Dieu nous bénisse richement quand nous faisons monter nos prières et nos cantiques de louange. C'est pour ça que nous voulons nous lever ensemble pour invoquer sa bénédiction. Dieu fidèle, ton peuple est de nouveau rassemblé pour louer ton précieux nom, pour chanter ton précieux nom, pour adorer ton précieux nom, car à l'avance, Seigneur, déjà par la bouche des saints prophètes, tu l'as annoncé que cela sera, que cela doit être ainsi. Ainsi, prépare-nous comme, que nous puissions être comme tu veux que nous soyons, pour que nous puissions t'apporter une louange qui te soit agréable de nos cœurs et de nos bouches. Que tu puisses, Seigneur, rendre cela possible ce soir. Fais-le maintenant pendant cette heure, ô Dieu. Nous regardons à toi, nous fixons nos regards vers toi et nous te demandons, ne sois pas loin, mais sois proche de nous, fais-nous grâce. Nous étions loin, éloignés dans le péché et les transgressions, mais tu as fait de nous ton peuple, tu nous as rachetés, tu nous as affranchis. Ainsi nous te louons, nous louons ta grâce, ton amour, et nous louons, nous t'adorons, nous te remercions de la joie qui nous a été accordée à ta parole et à toi, et la paix que personne peut nous accorder en dehors de toi et toi seul, la paix que personne non plus peut nous ôter, la vraie paix qui vient de toi. Nous te remercions et nous te louons et donnons à toi seul l'honneur encore ce soir. Nous te demandons que tu puisses être avec nous et nous bénir tous richement, et aussi ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur, ou bien qui sont en vacances, que tu puisses être avec chacun, Seigneur Dieu. Nous te demandons aussi que tu puisses, Seigneur, guérir les malades, ceux qui sont souffrants. Tu es le grand médecin. Tu es le grand secoureur. Tu es le grand au-dessus de toutes choses. Ainsi, nous te louons, nous t'exaltons. Tout secours vient de toi. Nous exaltons ton saint nom. Et sois avec nous ce soir, nous te demandons. Et bénis toute ton œuvre dans le saint nom de Jésus. Amen. Qui peut fonder, sonder l'amour de Dieu dans son Fils? Oh mon Jésus, toi celui que j'aime au-dessus de tout. Oh Seigneur Dieu, tu as quitté ton trône pour venir me ramener à toi. Louer la puissance de l'amour qui est en Jésus. Honneur et gloire soit à l'agneau, l'agneau de Dieu. Oh mon bien-aimé Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, soit élevé et loué au-dessus de tout. Vous les rachetez, entonnez avec moi ce cantique de louange à lui qui nous a aimés. Il nous a sauvés et nous a purifiés de tous nos péchés et nous a accordé un plein et a répandu sur nous un plein salut. Louez la puissance de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu qui est en Jésus, qui a été manifesté en Jésus, le Fils de Dieu. Oh, louez et gloire soit à l'agneau, l'agneau de Dieu. Oh, bien-aimé mon Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, soit loué et exalté au-dessus de tout. Avec les saints, nous entonnons, et les anges aussi entonnent ce cantique. Et que le ciel et la terre soient remplis de ta gloire. Continuellement. Car la puissance de Jésus nous purifie. Puissance, la puissance de l'amour de Dieu dans le Fils de Dieu. À toi, l'agneau, soit la louange, la gloire et l'adoration. Ô bien-aimé Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, soit élevé et loué au-dessus de tout nom. Louer et remercier soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici. Et je pensais que nous serions seulement entre nous, rassemblés, mais nous nous réjouissons malgré toute chaque visite qui est venue pour ensemble avec nous remercier le Seigneur, louer son nom, écouter sa parole. Ici, il y a une visite. Les parents du frère Gaidach Singh sont venus. Gaidach sont venus et les parents de la sœur Vit sont venus. Et vu de moi, vu de mon côté ici, complètement à droite, au dernier rang, un frère de la Pologne, les deux devant de l'Union soviétique, et nous vous saluons très fraternellement. Nous souhaitons que tous puissent vraiment bien se sentir dans la présence de Dieu. Que toute tension, tout ce qui pourrait nous ôter la bénédiction, veut nous ôter la bénédiction, soit ôté. Et que libres et heureux, nous puissions rencontrer notre Dieu. Le quotidien a ses soucis et a eu ses soucis et ses difficultés, la vie terrestre aussi. Et cela sera ainsi jusqu'à la fin. Mais de la même manière, tous les enfants de Dieu qui ont fait confiance au Seigneur, dans n'importe quelle circonstance, en tout temps, ils ont fait confiance au Seigneur et ils ont expérimenté toujours de nouveau, nouvellement, son secours, son aide. Et la même chose, nous pouvons aussi le dire. Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu n'est pas un homme et qu'il ne peut pas changer ses pensées, changer son programme, modifier son programme. Mais son programme, son conseil, son dessein, conçu depuis l'éternité, il accomplit, il exécute. Je suis en train d'écrire un traité et là je mentionne cette pensée que malgré la petite interruption qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, le plan éternel de Dieu, malgré tout, sera exécuté. Dieu, fondamentalement, a réellement tout, même en ce qui concerne la chute de l'homme. Il a fondamentalement, dans son grand plan d'éternité en éternité, il a tout su à l'avance. Il a inclus cela dans son plan. Rien ne peut le surprendre. Rien ne peut arriver et il pourrait dire, « Ah, mais ça, je ne l'ai pas su. » Non. Dieu est Dieu. Et ça, c'est une assurance merveilleuse que nous pouvons avoir de ce que nous pouvons entièrement lui faire confiance. L'histoire du salut n'est pas une histoire d'homme, mais c'est l'histoire de Dieu avec l'homme. Il y a deux choses. Il y a l'histoire et il y a l'histoire du salut. L'histoire a des traits humains, mais l'histoire du salut est le plan de Dieu et le dessein éternel qu'il exécute avec nous, qu'il accomplit avec nous. Toujours de nouveau, quand je pense à ce que nous avons le privilège dans ces jours directement d'écouter fraîchement du trône écouter la parole de Dieu. En pensant à cela, cela me remplit d'une joie profonde. Et j'espère que tous aussi nous devenons plus reconnaissants encore et que, comme déjà mentionné tout à l'heure, le quotidien, avec toutes ces difficultés, ces soucis, nous en dépouillons et nous, vraiment, de tout notre cœur, nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il puisse nous bénir. Je viens dans ces deux réunions ce soir et demain matin sans un programme déjà préparé, même pas avec des versets bibliques écrits sur une feuille. Je viens simplement pour avec le Seigneur et avec nous tous expérimenter et suivre la conduite de l'Esprit. Et je dois dire que la parole que nous venons d'avoir, de lire tous ne peut même pas être puisée dans, même pas dans une seule, mais une deuxième réunion ce week-end. On ne pourra pas puiser tout ce qui est dans, et continue dans ces versets. Au premier verset dans Romains 15, ici il écrit, nous qui sommes forts, nous avons l'obligation, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Nous devons et ne pas chercher ce qui nous plaît, et ne pas penser à nous avec bon plaisir en allemand. Penser à nous avec bon plaisir. Qu'est-ce qui est déjà contenu dans cette écriture? C'est une grande différence. Est-ce qu'un homme regarde à lui avec bon plaisir et aux autres avec mépris? Ou alors, est-ce que Dieu peut regarder à nous, à toi et à moi avec bon plaisir? Et là, nous pouvons aussi dire avec assurance, celui qui regarde à lui-même avec bon plaisir et qui cherche ce qui lui plaît, Dieu ne pourra pas regarder à lui avec bon plaisir. Car devant Dieu, chaque homme a manqué. Il soit qui il soit, qui il veut. Heureux celui qui, seulement en ce qui concerne cette écriture ici, comprend que seulement des hommes qui ne cherchent pas ce qui leur plaît et qui ne regardent pas à eux-mêmes, qui ne peuvent pas regarder avec eux, avec bon plaisir. Ce sont ceux-là à qui Dieu regardera avec bon plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont justement des hommes qui sont dépendants du secours, de l'aide de Dieu, qui viennent à Dieu, qui invoquent Dieu, qui crient à Dieu. Et c'est à lui, c'est à eux qu'il fait grâce, c'est à eux qu'il fait miséricorde, c'est à eux qu'il se tourne. Et malgré tout, ici nous sommes exhortés, il est écrit malgré tout que nous qui sommes forts, nous avons l'obligation en allemand, l'obligation de porter les faiblesses en allemand de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas penser à nous-mêmes avec bon plaisir. Penser à nous avec bon plaisir. Est-ce que nous voulons déjà recevoir ce verset dans nos cœurs et dans le futur? Mettre cela en pratique. La parole de Dieu n'est pas seulement écrite pour que nous puissions toujours de nouveau l'écouter, mais que nous puissions la recevoir dans notre cœur. Et que par l'Esprit, elle nous soit écrite dans le cœur et que nous puissions ensuite aussi la mettre en pratique. Qui est prêt à mettre ça en pratique? Qui est prêt à dire, Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique? Oui, merci, que Dieu soit remercié. Il y en a quand même quelques-uns qui ont levé la main. Je sais que le point qui nous fait hésiter de lever la main et le point qui un peu nous fait, qui nous fait hésiter, ce n'est pas d'être prêt à chercher ce qui plaît aux autres, mais c'est la première phase là. Ceux qui sont forts, alors quelqu'un pourrait dire, mais qui pourrait oser dire, je suis fort? Hein, de lui-même. Alors, parce que la condition, c'est à ceux qui sont forts qu'ils puissent, n'est-ce pas, porter les faiblesses des autres. Mais nous voulons permettre au Seigneur de nous rendre forts, car il est écrit que le faible dise, je suis fort. Car auprès de Dieu, tout est possible. C'est écrit que le faible dise, je suis fort. Joël 4, verset 10. Et ça, sans effort. Si le Seigneur, lui, nous rend fort, alors nous serons forts. Nous avons seulement besoin de nous mettre à sa disposition. Chacun de nous qui puisse, on va essayer de Dieu maintenant, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Les outrages de ceux qui insultaient Dieu sont tombés sur Christ. Et nous devons attendre à ce que les outrages de ceux qui insultent Christ tombent sur nous. Car c'est par l'Église que, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu sur terre continue. Pas que nous ayons un programme propre, mais nous avons à nous laisser insérer dans le programme de Dieu. Ça, ce n'est pas seulement dit ainsi, mais c'est ainsi. Nous avons par la grâce de Dieu dans son programme à nous laisser insérer. Êtes-vous reconnaissant pour cela? De ce que nous ne sommes pas des gens qui se tiennent à l'extérieur, pas seulement des gens qui sont seulement comme observateurs, qui entendent parler de temps en temps des événements de la fin des temps et des prophéties bibliques et de leur accomplissement, mais que nous puissions avoir la grâce de compter à ceux en qui les promesses de Dieu dans ces jours s'accomplissent. Que nous soyons des hommes par la grâce de Dieu, avec lesquels Dieu a fait une alliance des hommes à qui il a fait grâce, qu'il l'a attiré à lui. Au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous soyons attachés à l'espérance en allemand. C'est une espérance vivante. Comme souvent j'ai eu à le dire, et je l'ai même fondé pourquoi elle est une espérance vivante que nous avons. Pourquoi? Et ça me réussit mieux parmi les païens, parmi les nations, quand on peut tirer la comparaison que tous les fondateurs de religions sont morts et sont restés dans leur tombe. Mais que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit et que par cela, nous avons une espérance vivante que nous portons en nous. Le calcul est très facile. Comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous pouvons être aussi reconnaissants concernant ces choses, de ce que nous avons une foi qui est biblique et qui est simple, mais qui a un effet divin en elle. Et au jour du retour du Seigneur, cela sera complètement, entièrement manifesté. Que dans cette enveloppe terrestre, faillible, misérable, dans ce vase, nous avons porté un trésor éternel, précieux, divin. Et que Dieu fera en sorte que cette enveloppe terrestre, mortelle, sera vaincue par l'incorruptibilité, Comme il est écrit, alors la corruptibilité revêtra l'incorruptibilité et ce corps mortel revêtera l'immortalité. C'est ce qui s'est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 53 et 54. Et tel que en Jésus-Christ, chaque parole s'est accomplie et est devenue vraie, qui était écrit pour lui, se référant à lui, c'est ainsi que dans l'Église, chaque parole trouvera son accomplissement qui a été écrite pour elle. Nous n'avons pas connu Dieu autrement et nous n'avons pas appris à le connaître autrement et autrement, nous ne pouvons pas croire en lui. Et c'est une grande assurance que nous avons. Nous pouvons dire un alléluia à cela avec assurance. Un gloire à Dieu. Car où est-ce qu'existe un peuple qui serait comme le peuple de Dieu? Des hommes qui croient le Seigneur, qui lui font confiance, qui ne trient pas, ça, nous acceptons, ça ne l'acceptons pas, ça nous l'expliquons, ou bien nous l'interprétons, ou bien des choses semblables, non. Mais qui peuvent croire seulement comme l'a dit les Écritures. Ça, c'est la vraie foi qui, une fois pour toutes, a été transmise aux saints. Et pour c'est pour cette foi que nous voulons combattre, car c'est ce qui s'est écrit. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Qui sont les saints? Qui sont les bien-aimés? Qui sont les enfants de Dieu? Tous ceux qui par la parole et par l'esprit sont engendrés et nés de nouveau, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont expérimenté le pardon de leurs fautes et qui, par la foi en Jésus-Christ, leur Seigneur, qui ont reçu le pardon de leurs fautes et qui ont été agréés. Ensuite, il dit, verset 5 de Romains 15, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation vous donne. De qui vient vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Qui est prêt aussi à mettre ça en pratique? Qui est prêt aussi à dire, Seigneur, que je puisse être comme tu l'as dit ici dans ta parole? Que les uns envers les autres, nous ayons les mêmes sentiments. Pas d'après ton, pas de ta manière, pas de ma manière, mais ayant les mêmes sentiments de la manière de Christ. Que chacun, que les sentiments qui étaient en Christ soient en nous tous. Ayant les mêmes sentiments que Christ avait. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu, notre Seigneur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se laisser servir, mais il est venu pour servir lui-même, servir et donner sa vie pour la réconciliation. C'était ça, ses sentiments. Pas vivre pour lui-même, vivre sa vie, mais mourir pour ceux qui avaient été livrés à la mort, pour les aider, les secourir, ceux qui ne pouvaient pas s'aider, se secourir, pour les lier avec Dieu, les ramener à Dieu, ceux qui avaient été séparés de Dieu. Ça doit être nos sentiments, notre sentiment. Les sentiments tels qu'ils étaient en Christ, notre Seigneur. Le Dieu, il relit le verset 5, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation. La persévérance et la consolation ne vient pas de toi et de moi. C'est de Dieu que vient tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui nous fait aller de l'avant spirituellement et peut nous aider, ça vient de Dieu. Qu'il vous donne, qu'il vous aide, qu'il vous donne à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Comme ce serait autrement pour nous si nous devrions toujours nous représenter que le Seigneur nous voit, nous écoute et qu'il voit tout. Comment notre conduite changerait si on était conscient que le Seigneur nous voit à chaque instant et que tout ce que nous faisons, ça se passe dans la présence de Dieu. Il nous voit, il nous écoute, il cesse. Si nous pensions à ça, que le Seigneur ne nous abandonne jamais et ne nous délaisse jamais, qu'il est toujours là, il écoute ce que nous disons, il observe ce que nous faisons. Si nous étions vraiment conscients de ça, comme nous le prétendons, comment est-ce que nous vivrions les uns avec les autres? Comment est-ce que nous choisirions les paroles de notre bouche quand nous parlons à notre prochain? Comment serait notre conduite les uns envers les autres? Si nous étions conscients que ce que nous faisons à l'autre, c'est au Seigneur que nous le faisons. Ce que nous disons à l'autre, c'est au Seigneur que nous l'adressons. Lui qui a été racheté par le Seigneur et qui a été attiré et amené au Seigneur. Ensuite, au verset 6, « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Afin que, vous voyez que le verset 5 est la condition pour le verset 6. C'est comme un maillon dans une chaîne. Et on a besoin de tout, l'un avec l'autre, pour pouvoir avoir le tout, pour que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Tel qu'il est écrit ici, afin que, pas seulement ici, au verset 6, mais dans toutes les Écritures, il y a toujours une condition. Donc, il y a ce verset biblique. Comment Dieu ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son fils. Dieu n'exige rien de nous. Tout ce qu'il veut voir dans ta vie, il veut nous l'accorder, il veut te l'accorder. Comment est-ce que Dieu ne nous donnerait tout, ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui, avec son fils qui n'a pas épargné? Oui, dans sa plénitude, nous pouvons recevoir grâce, sur grâce. Encore ce soir, nous pouvons, de la plénitude de Dieu, recevoir grâce sur grâce, consolation, espérance, refuge, assurance, soutien, assurance, tout ce dont nous avons besoin, tout de sa grâce, nous pouvons le recevoir. Donc, afin que tous ensemble, ensuite sur le verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et nous avons déjà souvent parlé de ce sujet, de ce verset. Dieu, en Christ, nous a accueillis tels que nous étions. Et bien sûr qu'il nous a transformés ensuite. Nous devons aussi accueillir les uns les autres tels que nous sommes, tels que chacun est. Et puis, laisser la transformation de Dieu dans chacun. Nous pouvons même pas nous transformer nous-mêmes encore moins. Pourquoi vouloir essayer de changer l'autre? On doit laisser Dieu changer l'autre. Mais nous devons nous accueillir tel que chacun nous sommes. Et nous voulons que Dieu nous apporte en accord avec sa parole pour que la transformation vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors elle sera vraie. On peut de l'extérieur essayer de changer quelqu'un, dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, etc. De donner des conseils, mais peut-être qu'un jour, il arrêtera de faire ce qu'il fait, qui n'est pas bien. Mais cela, ce n'est pas encore la preuve de la transformation qui vient de Dieu, qui vient de l'intérieur. Il faut qu'on revienne tous à l'écoute du plein évangile du Fils de Dieu. Et que cet évangile puisse, en chacun qui l'écoute vraiment de tout son cœur, devienne une puissance de Dieu et qu'il soit saisi par l'évangile et qu'il soit transformé et changé par Dieu. Et ici, il y a une pensée qu'on ne pourra pas ici étaler comme il le devrait, verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Ça, c'est un point qui, personnellement, a inondé mon cœur, vraiment spécialement. Et tous nous sommes ici adultes et dans l'école de Dieu. Mais cela me rappelle très simplement le péché originel. Là, aucun homme ne peut passer à côté, aucun homme de Dieu peut passer à côté de cela. Même pas Abraham, qui 430 ans auparavant avait déjà reçu la promesse, avant même que la loi et la circoncision avaient été en général introduites. Et cela avait à rappeler le péché originel. Et là, il n'y avait pas de chemin qui pouvait passer à côté de cela. Dieu n'avait pas chargé l'homme de quelque chose de spécial après la chute, mais seulement la femme. Il lui a dit avec douleur, « Tu enfanteras. » Mais quand le temps était arrivé et que Dieu avait commencé à donner les promesses et faire établir l'alliance, alors là, la circoncision a suivi. Celui qui veut le lire, je peux lui donner dans Romains chapitre 4. Ici, il est écrit, Romains 4, à partir du verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice par Abraham. Sa foi fut imputée. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe extérieur en allemand de la circoncision comme sceau de la justice de la foi en allemand qu'il avait obtenu par la foi, de la justice donc qu'il avait obtenu par la foi. Bon, je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais tous ceux qui n'ont pas reçu cette révélation divine du péché originel dans le jardin d'Éden, qui ne reconnaissent pas cela, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourront comprendre le dessein du salut de Dieu, comment est-ce qu'ils pourront comprendre, n'est-ce pas, et ordonner la rédemption et et la chute de l'homme. Et comment est-ce qu'il veut l'accepter cela? Encore moins l'accepter par la révélation divine. Car une chose est liée à l'autre. La rédemption telle qu'elle a eu lieu est liée à la chute de l'homme. Ici, dans Romains 15, verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Christ, notre Seigneur, le huitième jour, devait être circoncis? Avez-vous tous lu cela? C'est ainsi que c'est écrit ici dans la Bible. Dans Luc, il ne pouvait pas passer à côté de la révélation divine de la parole de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants de ce que justement dans nos jours, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout le dessein du salut de notre Dieu de manière si claire a été révélé comme jamais auparavant. Et il y a toujours des gens qui pensent que une révélation divine de la parole de Dieu soit un objet de dispute. Non, c'est un objet de foi pour que nous puissions croire, pour que Dieu puisse nous révéler sa parole. Si nous pensons que nous pouvons encore nous disputer sur les choses que Dieu a révélées, ça veut dire que nous sommes encore dans une autre barque. Celui qui est dans la barque où le Seigneur est, il va prêter l'oreille au pied du Seigneur, il va écouter, croire et il recevra la révélation du Seigneur, par le Seigneur. J'aimerais lire encore une autre parole que je voulais lire aujourd'hui, malgré tout dans Éphésiens, qui avec assurance pourrait avoir sa place ici, dans ce contexte. Éphésiens chapitre 1. L'élection de Dieu ici est mentionnée et la révélation de sa volonté et de son dessein du salut. C'est la chose la plus grande et la chose la plus glorieuse dans ce temps. Ici, il est écrit dans Éphésiens, au premier chapitre, à partir du verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Restons un peu ici un moment. Qui nous a béni. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Béni de chaque bénédiction de Dieu spirituelle. Et alors l'un ou l'autre penseront en eux-mêmes, je ne veux pas moi-même me tromper, me mentir, il me manque encore ceci, il me manque encore cela. Bien-aimés frères et sœurs, cette constatation sincère de ton état, chacun de nous l'a fait. Tous ceux qui écouteront cette prédication, le fond aussi. Mais il y a une chose qu'on doit, dans laquelle nous devons faire la différence des choses. Nous devons toujours donner raison à Dieu dans ce qu'il dit dans sa parole. Nous devons donner raison à Dieu et croire que ce qui est écrit ici est la pleine vérité. Et c'est à ce moment-là que cela, ce qui est écrit ici, ce qui nous a déjà accordé, nous sera accordé dans la réalité. Ça, c'est le chemin de Dieu. Je ne me mens pas. Si je crois la parole de Dieu, je ne fais que constater que je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore reçu cela, ça c'est réel, mais alors je constate que Dieu me l'a déjà donné en Christ et que c'est seulement par l'incrédulité, le doute, que je n'ai pas encore vu dans ma vie la chose, dans sa réalité, manifestée. Alors, il nous a demandé à tous, par la grâce de Dieu, de faire confiance au Seigneur et de donner raison au Seigneur et de dire, Seigneur, mon Dieu, je ne regarde pas aux choses visibles et à ma vie, mais je regarde à toi en tant que l'invisible, comme si je te verrais, comme si je te vois. Je crois le témoignage des Écritures. Je crois ce que tu as dit dans ta parole est tel que tu l'as dit. Et je le possède déjà. Accorde-moi la foi qui est selon les Écritures, pour que cela puisse être manifesté, pour que cela puisse arriver, et accorde-moi ton esprit pour que les Écritures puissent être vivifiées pour moi et devenir une réalité pour moi. On doit marcher dans le chemin de la foi avec Dieu. Nous sommes sur le bon chemin vers là-bas. Encore ici, au verset 4, car, vous voyez en allemand, car en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Et nous a prédestinés dans son amour par Jésus-Christ à être ses enfants selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Au verset 7, c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Nous voyons que l'homme de Dieu n'écrit pas avec des « oui, mais » avec l'œuvre de Dieu, dans toute la crainte, il l'a décrit tel que cela était digne de Dieu et il a montré l'œuvre de la rédemption en tant qu'une œuvre qui est accomplie parfaitement. Et elle est accomplie parfaitement, elle est arrivée complètement pour tous les croyants qui ont été déterminés par le Seigneur et qui ont reçu la grâce du Seigneur à recevoir ces choses. Ce n'est pas comme ça, eux, des prétentions, mais c'est la foi qui était en eux et qui est encore aujourd'hui en ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous n'avons rien à porter de nous-mêmes en tant que rien qu'une vie misérable, terrestre, qui n'était même pas utile pour nous-mêmes, mais encore moins pour le Seigneur. Mais c'est ainsi que nous venons à lui et d'enfants d'homme, nous devenons des enfants de Dieu. Ceux qui étaient éloignés sont devenus, ceux qui sont proches, rapprochés, ceux qui étaient perdus sont sauvés. Et que ce n'est pas quelque chose de merveilleux, que nous puissions nous réjouir de manière nouvelle, sûre. Ou bien alors concernant ce que Dieu a fait à nous. C'est en lui que nous avons la rédemption, ensuite au verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Répandu. Donc, de la part de Dieu, tout est déjà accompli. Pas il va répandre, il a répandu. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez cela dans la foi. Ne regardez plus à vous-même. Et ne regardez pas non plus aux circonstances, au quotidien avec tous ces soucis et difficultés. Il y a plus de quotidien que de dimanche. Ça, nous le savons tous. Mais il y a plus de jours de la semaine que de dimanche. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que le Seigneur nous a sauvés, nous a rachetés et qu'il a expié nos fautes et pardonné nos péchés. Et que nous avons reçu la vie nouvelle, la vie éternelle qui est venue de Dieu lui-même. Ici, il est dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Répandu abondamment. Même si cela n'a pas encore été manifesté dans notre vie, cela sera manifesté. Que la plénitude de Dieu parmi l'Église, dans l'Église, au milieu de l'Église et par l'Église, sera manifesté, deviendra visible. Et je vais vous le lire, si je le trouve, que la même plénitude de Dieu, telle qu'elle était en Christ, qui était en Christ, est aussi dans l'Église. Colossiens, chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous possédez en lui toute cette plénitude qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. Vous possédez en allemand. Possédez. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que nous voulons croire cela tel que c'est écrit ici? Amen. Il dit, vous avez, vous possédez. Nous ne pouvons rien faire autrement. Si en tant que croyants, nous ne pouvons pas croire comme dit les Écritures, alors qui devrait croire? Qui va croire ce que Dieu a dit dans sa parole? Qui? Ici? Dans Éphésiens, nous avons lu qu'il a répandu avec abondance, avec toute espèce de sagesse et d'intelligence, toutes les bénédictions sur nous, toute la rédemption par la richesse de sa grâce. Et ici, il est écrit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, verset 9. Pourquoi est-ce que la plénitude de Dieu, qui est une plénitude de l'esprit, qui était une plénitude de l'esprit, dans un corps, est venue dans un corps terrestre en Jésus-Christ, notre Seigneur? Pourquoi? Pour que, justement, ce corps terrestre, comme sacrifice pour tous ceux qui ont besoin d'être sauvés et qui allaient accepter leur salut, soit apporté. Pour que la même plénitude de l'esprit, ensuite, dans les rachetés, puisse être comme elle a été dans le Rédempteur. Donc, tel que frère Branham le dit quelque part, cela est en accord avec l'évangile de Jean, Dieu en Christ et Christ dans l'Église. Tout en tous, conduit par Dieu ainsi et voulu par Dieu ainsi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Croyons-nous cela tous, Corinthiens 2, verset 9, bon. Nous disons amen à cette partie de l'Écriture, verset 9. Maintenant, nous passons au verset 10. Avec la première partie du verset 9, on n'a pas de problème, n'est-ce pas, de croire à ça. Car il est écrit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Nous disons amen, 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 amen. Mais ensuite, avec cela, à toi et à moi, on n'est pas, ce n'est pas encore la réponse dont nous avons besoin de Dieu. Ça continue directement au verset 10. Et vous avez, en allemand, et vous possédez toute cette plénitude en lui. Nous sommes inclus dans ce programme de Dieu. Il s'agit de nous. Est-ce que vous pensez que le Seigneur est venu à cause de lui-même, à cause de lui-même? Il est venu à cause de nous. Il voulait nous sauver. Il voulait nous ramener dans l'état primitif. Il voulait de nouveau nous faire grâce. Maintenant, la plénitude, toute la plénitude corporellement habitée en lui, pour qu'elle puisse habiter ensuite en nous, après que le précieux, par le précieux sang de l'agneau, nous avons été rachetés et que nous avons accepté cette rédemption accomplie. Ici, il dit, et vous possédez toute cette plénitude en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité? Est-ce que nous voulons cela de tout notre cœur, croire? Est-ce que nous pouvons de nouveau être réels et dire, oui, c'est vrai, oui, mais ce n'est pas encore à voir dans ma vie, dans l'Église. Bon, nous voulons, est-ce que nous voulons regarder aux choses visibles et parler dans l'incrédulité, dans le doute, et par cela, enfoncer et faire mal à... offenser Dieu, ou bien alors nous voulons faire confiance au Seigneur et dire, Seigneur, je crois, aide mon peu de foi, aussi certain que la plénitude de Dieu a habité en toi, mon Sauveur et Rédempteur, corporellement, aussi certain, aussi tu m'as racheté, tu m'as sauvé, tu m'as affranchi, pour que cette plénitude de Dieu habite en nous les croyants, puisse habiter en nous les croyants. C'est ainsi que est le programme de Dieu pour nous. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Et c'est pour cette raison qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes désignés. C'est pour cette raison que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. C'est pour cette raison. Revenons dans la parole d'Éphésiens. Ici, il est écrit, à partir du verset 9, Éphésiens 1, verset 9, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Comme c'est merveilleux de ce que, avec un absolu divin, nous pouvons dire. Il y a une différence, une grande différence, entre quelque chose qu'on présume, qu'on prétend, et entre quelque chose qui est ainsi. Est-ce que ce qu'on dit est ainsi dans la réalité? Dieu s'est donné beaucoup d'efforts. Il a, n'est-ce pas, placé les promesses pour ces derniers jours sur le chandelier. Il a envoyé un prophète pour que la parole prophétique dans l'Église soit prêchée et qu'elle soit révélée et que ensuite elle puisse commencer à briller dans les ténèbres. C'est ainsi que c'est écrit de notre Seigneur et c'est ainsi aussi pour les derniers jours. Ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, ont vu une grande lumière. Et pour les derniers jours, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est une partie prophétique. Les parties prophétiques qui ont une grande signification pour Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin de les interpréter ou bien les expliquer, mais de croire et devenir une partie de ce plan de Dieu, du salut, et de servir vraiment le Seigneur et le suivre sans avoir un propre programme. Vous savez, c'est toujours très simple de regarder dans l'histoire de l'Église et de dire, beaucoup ont parlé, ont prêché sur le royaume de Dieu et ont bâti leur propre royaume. Et ensuite, on peut penser des centaines d'autres personnes en disant cela. Mais on doit être réel et se poser la question, mais ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que nous baptisons à l'intérieur de ton royaume, notre propre royaume, ou bien alors est-ce que nous nous sommes mis entièrement à ta disposition réellement? Est-ce que notre prière sincère et réelle et sincère est que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite sur la terre, qu'elle soit faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous sommes réels et regardons autour de nous, nous pouvons dire, tous, toutes les dénominations ont prêché sur le royaume de Dieu et ont bâti en faisant cela leur propre royaume. Mais si dans ce temps, nous sommes sincères, nous regardons, nous devons être aussi sincères en regardant dans ce temps et dire, beaucoup ont accepté la parole pour ce temps, ont pris la parole pour ce temps et de cette parole pour ce temps, ils en ont fait leur propre chose, leur propre... Et ce n'est plus... Dans la prédication, c'est plus resté la cause de Dieu, l'affaire de Dieu, la chose de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ils attirent des gens autour d'eux, ils bâtissent leur propre royaume, ils ont des gens autour d'eux qui leur sont fidèles, qui leur sont soumis, et ils pensent toujours encore être une partie du royaume de Dieu. Mais bien aimé, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour ton royaume ou mon royaume. Et là, je pourrais lire une parole du prophète Daniel, chapitre 2, verset 44, où il est écrit, « Dans le temps, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Cela aussi est valable pour l'Église du Dieu vivant. » Ou alors, nous bâtissons notre propre royaume, ou bien alors, nous sommes dans le royaume de Dieu et à l'intérieur de ce royaume, nous sommes bâtis. Et pour cela, il y a deux choses qui sont nécessaires. D'abord, que nous devons comprendre que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu doit être en toi et en moi pour pouvoir être parmi nous, au milieu de nous. Et c'est ainsi que par le royaume de Dieu, que Dieu a mis en toi, tu pourras aussi être pris dans le royaume de Dieu. C'est ça tout le mystère duquel nous parlons ici. Pas seulement une chose sur laquelle nous pouvons faire de la théorie, mais nous voulons dans la pratique voir cela tel que c'est. Je le dis très ouvertement. Ce serait trop dommage pour moi. Ce serait nuisible pour moi d'être une partie de quelque chose que je fais moi-même, propre à moi. J'arrêterai. Je ne continuerai pas une seule heure de plus si je ne savais pas 100% devant le Dieu Tout-Puissant que je suis dans son royaume. J'ai été placé dans son royaume parce que son royaume a été mis en moi. Oui, ça tu peux encore répéter ton amen, frère Rousse. Ça, c'est la pure vérité. Tout le reste, à la fin, conduit à une déception terrible. Ce qui aujourd'hui, que aujourd'hui personne ne peut s'imaginer, cette déception terrible à la fin. Et ne pensez pas que les ivrognes et tous ces gens seront déçus à la fin. Ils n'attendent rien de tous ceux qui doivent venir. La déception sera parmi ceux et en ceux qui attendaient ces choses, qui pensaient être en train d'aller à la rencontre de l'époux, qui pensaient prendre part à l'enlèvement, avoir part à l'enlèvement, et exclure tous les autres. Nous excluons personne. Nous nous laissons, au contraire, inclure par Dieu. Et nous voulons que son royaume soit en nous. Et que nous soyons dans son royaume. Avez-vous ce désir? Le royaume de Dieu en nous. Et nous, avec le royaume de Dieu en nous, dans le royaume de Dieu. Que ainsi le Seigneur puisse recevoir ce qu'il veut de plein droit. Et qu'il puisse se manifester. Ici est contenu tout le désir, le mystère. Accueillez-vous tel que Dieu vous a accueilli en Christ. Le royaume de Dieu en nous et nous dans le royaume de Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu tout. Grâce sur grâce. Encore ce soir. Pour moi, cela est quelque chose de très grand. Nous n'avons pas besoin de grandes prédications. Nous avons seulement besoin du grand Seigneur qui nous vivifie sa grande chose et qui nous laisse savoir. J'ai mis ma parole en vous. J'ai placé ma parole en vous qui est déterminée dans ces derniers jours à devenir une réalité, à être confirmée dans mon royaume. Et c'est ainsi par cela que déjà j'ai mis mon royaume en vous. Et ce royaume n'est pas de ce monde. C'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. Mais il faut qu'il soit en nous pour pouvoir être au milieu de nous. Si c'est seulement à l'extérieur, nous pouvons tous oublier. Nous pouvons tous oublier ça. Et pour beaucoup, le royaume de Dieu est malheureusement quelque chose qui est extérieur. Non, il faut que le royaume de Dieu soit en nous si nous voulons être dans ce royaume de Dieu. Et je crois que Dieu a conduit les choses ainsi. Il a fait ainsi. Vous savez, Jean-Baptiste avait une parole de Dieu qui appartenait au royaume de Dieu, au déroulement du royaume de Dieu. Il avait une parole. Et je vous pose la question ce soir. Comment est-ce qu'il a commencé sa prédication? Répentez-vous. Car le royaume de Dieu des cieux est proche. Il avait une parole qui portait en lui. Et cette parole était déjà une partie du commencement du royaume de Dieu dans ces jours. Nous sommes, aujourd'hui c'est à nous, nous portons la parole de Dieu qui est une partie du royaume de Dieu pour ces derniers jours. Et nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire la même chose. Comment est-ce que notre Seigneur a commencé à prêcher? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En lui s'accomplissait, et par lui s'accomplissait la parole de Dieu qui appartenait au royaume de Dieu. Mes bien-aimés, que nous puissions comprendre cela. La loi et les prophètes étaient venus jusqu'à Jean. Et c'est de là que le royaume de Dieu est prêché. L'homme portait en lui Ésaïe 40, Jean-Baptiste. Il portait Malachie 3, verset 1. Il portait ça en lui. Une parole de Dieu qui était une partie du royaume de Dieu. Mais cette parole était en lui. Et il était dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire et remercier soit notre Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Mais nous avons suivi le grand et clair plan de Dieu. Et si le message de la fin des temps est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Paul le dit. Car si l'évangile que nous prêchons est voilé, est caché, donc il est caché pour ceux qui périssent. Mais à ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu, c'est une révélation. Cela nous humilie sous la même puissance de Dieu. Cela nous rend petits. Et nous devons dire, Seigneur, qui sommes-nous? Qui était Jean? Qui étaient tous les prophètes? Et qui sommes-nous? Nous ne pouvons pas nous faire voir et nous faire entendre. Mais devant Dieu, nous sommes quelque chose de précieux. Il nous a aimés profondément. Le Seigneur a versé son sang pour nous. Il a racheté une église et racheté une église, affranchi une église qui lui appartient éternellement. des hommes et des femmes dans son royaume qui portent la parole en eux, qui trouvent son accomplissement dans le royaume de Dieu, qui doit trouver son accomplissement dans le royaume de Dieu. Des hommes qui ont fait une alliance avec Dieu, Dieu avec, des hommes avec qui Dieu a fait une alliance, des hommes qui ont compris ce que le Seigneur, dans ces jours, en accord avec sa parole, fait dans son royaume. Êtes-vous reconnaissant pour cela? Êtes-vous heureux de ce que la parole de Dieu nous procure une telle consolation, une telle clarté, une telle assurance qu'aucun homme sur terre peut avoir et peut apporter? Elle se répand abondamment sur nous par l'Esprit et la parole de Dieu. Et je ne me trompe pas. La chose est claire devant nos yeux spirituels. Nous voyons de quoi il s'agit. Pas d'ici et de là, extérieurement, non. Mais intérieur en vous, le royaume de Dieu. Il n'est pas extérieur quelque part. Le royaume de Dieu, dans un temps, et les promesses de Dieu qui sont en nous vont s'accomplir dans un temps, dans le royaume de Dieu. Nous sommes, pour qu'elles puissent s'accomplir au milieu de l'Église, au milieu du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, par nous en qui ces promesses sont, par nous accomplies dans le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué ce soir, qu'il puisse accorder sa grâce à tous, pour que nous puissions saisir cela, et par révélation, voir cela, que nous avons été déterminés à être une partie de son royaume dans ces derniers jours. La vérité, de reconnaître la vérité et d'être affranchi de toute erreur et d'être inséré dans le royaume de notre Dieu. Que Dieu nous garde de sortir de son royaume et de bâtir notre propre royaume dans son royaume. Que Dieu nous garde de ça. Jamais, jamais, cela n'existera. Tous ceux qui sont envoyés de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, n'ont jamais œuvré pour eux ou bien pour leur propre nom. Ils ont préparé le chemin au Seigneur. C'est ainsi que Jean-Baptiste a commencé, et c'est comme ça que les apôtres ont continué, et c'est ainsi que c'est encore jusqu'à dans nos jours. Dans notre jour. Pourquoi? Est-ce que frère Branham n'a pas fondé une église locale? Pas une seule. Pas aucune dénomination. Il avait une seule assemblée locale. Jacksonville. Ils l'ont entendu de beaucoup de dénominations, de l'église libre. Mais elles existaient déjà. Mais lui-même, il n'en a fondé personne. Il n'en a fondé aucune. À l'intérieur du royaume de Dieu. Il ne s'est pas lui-même bâti un royaume. Non. Il a prêcher la parole de Dieu qui appartient au royaume de Dieu. Et tous ceux qui, dans la foi, ont reçu cette parole et qui entrent dans le royaume de Dieu, c'est par eux et en eux que la parole du royaume de Dieu sera vivante, deviendra une réalité vivante, réelle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait après sa résurrection? Il a commencé à parler du royaume de Dieu. Il a commencé à parler du royaume de Dieu et de tout ce qui doit arriver. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Nous n'avons rien d'autre, aucun programme propre, mais seulement ce que Dieu, dans ces jours, fait. Si avec cela nous sommes incompris, alors nous devons dire, cela a été aussi le cas avec tous les prophètes et les prophètes, avec le Seigneur lui-même. Nous préférons être mal compris par les hommes et être accueillis par Dieu, auprès de Dieu, que d'être compris par tous et être rejetés par Dieu. Qui nous aide à comprendre cela ce soir, dans la foi, l'accepter, en tant qu'une réalité divine, aussi certain que les promesses qui appartiennent au royaume de Dieu sont en nous, aussi certain, nous serons ravis dans le royaume de Dieu pour que dans le royaume de Dieu, tout ce qui doit encore arriver, puisse arriver. Nous n'attendons pas seulement ces choses. Nous savons que cela va arriver. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Oh Dieu. Oh Dieu. En toi, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu la certitude. Nous avons reçu la plénitude avec abondance répandue sur nous. Nous te remercions. Accorde-nous ta grâce à tous. Pour que dans la foi, nous puissions le saisir. Et de ne pas travailler en nous-mêmes. Mais regarder à toi et à toi seul. Et bâtir sur toi. Et glorifier ton saint nom. Et être bâti sur ce que tu as fait. Nous te remercions de ce que tu as parlé. Nous te remercions de ce que tu parles. Tu as révélé ta parole. Nous te remercions. Amen. Père céleste, encore aujourd'hui, je te remercie ce soir pour la clarté et la vérité de ta parole. Je te remercie de ce que ton royaume est une réalité divine ici sur cette terre. Ta parole est dans nos cœurs, est dans notre cœur, la parole de la promesse. Je te remercie de ce que l'évangile du royaume des cieux, est prêché à toutes les nations, à tous les peuples, et rien ne manque dans cet évangile. Tout le dessein du salut de Dieu est prêché dans, dans cet évangile du royaume des cieux. Je te remercie pour cela. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es présent. Tu as parlé avec nous. Ton royaume n'est pas de ce monde. Ici, il n'y a pas de sagesse de ce monde dans ton royaume. Dans ton royaume, ta parole sort. Alléluia. Tu es roi dans ton royaume. Oh Seigneur, que tu puisses exercer ta domination sur nous. Ta domination sur nous. Prends tout à ta soumission et dominer. Et que aussi dans ton royaume, tout ce qui doit s'accomplir en tant que promesse divine, que nous puissions le porter déjà maintenant en nous. Alléluia. Honneur et gloire et adoration soit à ton nom. De ce que déjà en nous, le royaume de Dieu est. Et que nous, en ce que tes promesses sont, nous les portons, ton royaume est en nous et nous sommes dans ton royaume. Loué et exalté sois-tu dans toute éternité. Amen.